La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission enregistrée cette semaine à Phnom Penh, capitale du Cambodge. Plus de 40 ans après le déclenchement du génocide perpétré de 1975 à 1979 par les Khmers Rouges.
3h30 ce matin, heure de Paris, les Khmers Rouges annoncent qu'ils sont totalement maîtres de Phnom Penh. Avec la reddition de la capitale cambodgienne, se terminent ainsi 5 années d'une guerre terriblement meurtrière, une guerre qui a opposé les Khmers Rouges communistes aux forces gouvernementales, lesquelles avaient renversé le prince Sihanouk en 1970.
Le 17 avril 1975, la prise de Phnom Penh par les Khmers Rouges marque leur victoire. Mais le 17 avril 1975, c'est aussi le lancement d'un nouveau régime de terreur, le Kampuchea démocratique. Au nom d'une révolution communiste radicale, les Khmers Rouges font table rase du passé et réduisent en poussière 25% de la population cambodgienne. En 3 ans, 8 mois et 20 jours, 2 millions de femmes, d'hommes et d'enfants sont exterminés. Les premières cibles sont les anciennes élites, les fonctionnaires, les intellectuels ou les artistes. Mais le régime Khmer Rouge a également la particularité de s'être autodétruit dans une logique de purge permanente. Les membres de son organisation, appelés l'Ankar, peuvent à leur tour devenir des cibles pour la machine à exterminer. Et le 17 avril 1975, c'est par l'évacuation de la capitale Phnom Penh que le génocide est déclenché.
Phnom Penh est la ville fantôme suite à l'évacuation forcée de tous ses habitants par les Khmers Rouges. Donc cette déportation constitue un des grands traumatismes du génocide commis par les Khmers Rouges. Et ce qui occupe encore aujourd'hui notre imaginaire, ce sont ces rues désertées, ces rues vidées par ses habitants qui constituent un de nos grands traumatismes. Et il s'agit pour nous d'aller à la découverte de cette mémoire enfui, quand nous avons invité nos jeunes artistes des ateliers laboratoires d'interroger ce passé, d'interroger ces fantômes du passé et comment ces fantômes affleurent notre présent. Et donc il s'agit de parcourir la ville de Phnom Penh, de son histoire, de ses lieux, comme un archéologue qui irait exhumer les traces du passé.
La voix de Soko Fay dans La Marche du Monde, l'historienne de l'art, pose la question des traces du passé Khmer Rouge dans la capitale de son pays natal, le Cambodge. Phnom Penh est une ville qui porte le nom de sa fondatrice légendaire, Madame Penh, une ville façonnée par la colonisation française, puis l'indépendance, la guerre, le génocide, la période communiste et aujourd'hui par son développement frénétique financé par les Chinois. Mais Soko Fay nous invite à regarder la ville autrement. Roman, comme un paysage urbain où la mémoire du génocide serait inscrite. Une mémoire souvent cachée, parfois secrète, révélée par l'œil des artistes ou même portée par leur propre expérience des Khmers Rouges.
Pour moi, le concept paysage-mémoire, ce qui est important, c'est le trait d'union qui relie paysage et mémoire. Paysages-mémoires, ce sont pour moi des productions culturelles, que ce soit artistiques ou littéraires, qui rendent compte de cette interrogation de l'histoire dans le paysage. Est-ce qu'on peut lire l'histoire avec un grand H dans la topographie, d'autant plus lorsque ces lieux ont connu des violences extrêmes, ont connu des génocides ou des meurtres de masse? Je trouve très belle la proposition faite par Jean-Christophe Bailly, qui est romancier essayiste et qui nous rappelle que le terme « invention », qui est très important pour les artistes inventés, créés, et bien pour lui, il souligne que « invention » en archéologie, c'est l'acte par lequel les vestiges viennent au jour. Et d'une certaine manière, ce que les artistes, que ce soit un artiste comme Macrémissa ou que ce soit un artiste issu de nos ateliers laboratoires comme Crystal Boué, Raphaël Medeiros ou Rida Sloan, c'est précisément leur invention qui est d'exhumer le passé et qui nous donne à voir ce qu'on ne voit pas.
Dans un pays où le devoir de mémoire n'existe pas, il ne subsiste aucune trace visible du 17 avril 1975 et très peu d'habitants de la ville de Phnom Penh ont encore le souvenir de l'entrée des Khmers Rouges dans la capitale et de son évacuation vers les campagnes. Avec Soko Faye, nous avons rencontré l'artiste Mac Remissa. Il travaille depuis plusieurs années sur le 17 avril afin d'exhumer sa propre mémoire d'enfant rescapé du génocide. Mac Remissa est également photographe pour l'Agence européenne de la photo de presse et il a accepté de nous raconter son 17 avril 1975 et c'est une première sur un média français.
Le 17 avril 1975, j'étais dans la capitale de Phnom Penh.
Que s'est-il passé?
Ce jour-là, ma famille, mon père, ma mère, tout le monde s'est réuni à la maison, près de l'hôpital Lok Sang. Soudain, j'ai entendu énormément d'explosions. Mes parents ont discuté et ils ont dit que les Khmers rouges étaient arrivés au cœur de Phnom Penh.
Vous aviez quel âge?
À l'époque, j'avais 7 ans. Je regardais depuis la fenêtre de chez moi. J'ai vu toute une foule de gens. Les militaires Khmer rouges étaient habillés en noir. Ils marchaient dans la rue et ils tiraient vers le ciel. Trop de bruit. Ils tiraient beaucoup de balles. Les coups de feu étaient très forts. À ce moment-là, mon père et ma mère sont descendus. Ils ont demandé aux voisins pour savoir ce qu'on allait faire ensuite. Mais les Khmers rouges nous ont dit de quitter la maison.
Dans votre souvenir d'enfance, comment s'est passée cette sortie de la ville de Phnom Penh, cette déportation, quelles conséquences ça a eu sur votre famille?
Ce que j'ai retenu, c'est qu'on devait quitter la capitale, vider la ville juste pour 3 jours. Cette nuit-là, à Phnom Penh, ville vide, c'était vraiment calme. Je ne voyais que les Khmers rouges qui traversaient de temps en temps dans la rue. Dès qu'ils voyaient les gens, ils leur criaient de partir, partir vite. Frères et sœurs, quittez la ville. Je n'entendais que cela. Le lendemain, mon père a réuni toute la famille et il nous a dit que nous ne pouvions plus continuer à nous cacher. C'était trop risqué. Nous ne pouvions plus rester à la maison. On avait peur. Alors, mon père a décidé finalement de partir pour son village natal, district Angkor Chae, dans la province de Takeo. Ce que j'ai retenu, c'est que je n'avais jamais autant marché. Et à force de marcher si longtemps, j'ai finalement attrapé des ampoules. Je marchais très lentement, sous la chaleur accablante. Il y avait trop de soleil. C'était en saison chaude, en plein été, on avait très soif. Je voyais au bord des rues des gens qui s'arrêtaient pour se reposer. Mais les Khmers rouges sont venus les chasser et leur dire « Avancez, avancez !» Nous étions épuisés. Notre famille avait besoin de se reposer et de préparer du riz pour manger. Eux, ils n'arrêtaient pas de nous pousser et disaient toujours « Avancez, avancez !» Sur le chemin, ce qui était le plus difficile, c'était de trouver de l'eau pour boire. C'était loin de la route et difficile d'accès. Et quand on avait la chance de tomber sur un point d'eau, un petit lac proche de la route, on ne pouvait pas toujours boire, car il y avait des cadavres dedans. De ce que je me souviens, pour rejoindre le village de mon père, cela prend peut-être une semaine. Et j'y ai vécu pendant 3 ans avant de pouvoir retourner à la capitale Phnom Penh. Durant ces 3 ans, j'ai perdu mon grand-père, mon oncle et mon père. Ils ont été assassinés par les Khmers rouges.
La voix de Mac Rémissa dans La Marche du Monde, un témoignage à hauteur d'enfant, et il nous dit qu'à l'âge de 10 ans, il est revenu à Phnom Penh et qu'il a tout oublié de ses années d'éducation collective à la campagne, sous les Khmers rouges. Sokofay, qu'est-ce qu'évoque pour vous les mots de Mac Rémissa, son témoignage?
Son témoignage est très émouvant, et puis il est courageux aussi de pouvoir revenir sur le passé, puisque aujourd'hui on a plutôt tendance à oublier les événements que nous avons vécus, puisque le 17 avril 2019, qui correspond également à la période du Nouvel An, eh bien, ces grandes festivités dans tout le pays viennent recouvrir, masquer, et d'une certaine manière aussi effacer, la commémoration du génocide. Puisque il y a 44 ans, le 17 avril 1975, c'est la chute de Phnom Penh qui marque le déclenchement du génocide. Et pour moi, c'est comme s'il y avait un télescopage temporel entre le 17 avril 1975 et le 17 avril 2019, où il n'y a pas eu de commémoration officielle. Donc c'était très étrange, voilà.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il a retrouvé la mémoire du 17 avril 1975 en travaillant sur une œuvre qu'il a intitulée « Left Three Days », Mac Rémissa.
J'ai commencé à créer mes séries de photos « Left Three Days », partir pour trois jours, en 2014. À l'époque, j'avais 46 ans. Je réfléchissais et je me disais que je devais faire quelque chose pour commémorer l'anniversaire des 40 ans de la prise du pouvoir à Phnom Penh par les Khmers
rouges.
Les sujets sur les Khmers rouges sont terriblement vastes et dramatiques. Alors, j'ai préféré me concentrer sur ces trois jours d'évacuation. Car le mot « quitter » ou vider la capitale pour seulement trois jours est le terme exactement employé par les Khmers rouges. Je voulais montrer comment ma famille a traversé la capitale pendant ces trois jours, et puis comment chacun des membres de ma famille a fait pour transporter tous ces objets parfois très lourds pour partir. J'ai découpé des silhouettes en papier de chaque personnage de la famille. Mon père, ma mère, mes oncles, mes grands-parents, tout le monde. Et puis, je les ai peints en noir. Je les ai pris en photo, puis mis en scène en utilisant la fumée. La fumée représente bien l'ambiance de guerre à l'époque. Phnom Penh a été submergé par la fumée des bombes. Et toutes mes photos représentent les activités de ma famille. Comment mon père portait mon frère sur son épaule, comment ma mère transportait des objets lourds sur sa tête alors qu'elle marchait, comment mes tantes, mes oncles transportaient un vélo et une motocyclette. D'autres photos montrent la capitale Phnom Penh vide. Il n'y a personne et c'est beaucoup trop calme. Et d'autres décrivent les militaires Khmers rouges patrouillant dans la ville en forçant les habitants à la quitter pour aller travailler à la rizière.
Ce sont des images fantomatiques dans un pays où très très peu de gens comme vous peuvent témoigner de ce qui s'est passé le 17 avril à Phnom Penh.
Mon travail, Left Three Days, est considéré comme une archive importante. C'est une mémoire pour la nouvelle génération, pour qu'elle puisse prendre conscience de ce qui s'est passé de terrible au Cambodge. D'autre part, c'est mon message personnel. Je ne veux absolument pas revoir la guerre, ni un tel régime de sang et de larmes. Je ne veux plus que les massacres reviennent au Cambodge.
La voix de Mac Rimissa dans La Marche du Monde, artiste cambodgien qui fait œuvre de témoignage sur le 17 avril 1975 ici à Phnom Penh. Alors en quoi du coup Soko Phai, cette série photographique Left 3 Days, qu'on peut traduire par Parti 3 jours, est remarquable pour l'historienne de l'art que vous êtes?
Ce que je retrouve remarquable chez Mac Rimissa, c'est sa capacité d'inventer. Hein, puisqu'il n'y avait pas de témoins, eh bien, il a créé ses personnages avec des papiers découpés, des silhouettes, en jouant avec de la fumée, et qui renvoie aussi au ce jeu d'ombre et de lumière. Ça renvoie aussi à la tradition cambodgienne qu'on appelle le théâtre d'ombre, et en cambodgien on dit Smaik Thom, qui est une tradition ancestrale qui renvoie à la fois le théâtre d'ombre, l'émerveillement des enfants dans les villages, de voir l'histoire des épopées traditionnelles à travers le jeu d'ombre. Donc tout enfant cambodgien l'a vu au moins une fois. Et en même temps, il y a aussi toutes ces traditions qui est transmise et que, d'une certaine manière, Mac Rimissa le renouvelle à sa manière.
Alors c'est bien autour de la date du 17 avril 1975 que Mac Rimissa a décidé de travailler Soko Phai, et c'est une date qui vous est également très chère. Pour quelles raisons, vous, en tant qu'historienne de l'art, vous préférez cette date du 17 avril 1975 plutôt que celle du 7 janvier 1979, qui est la libération du pays par les Vietnamiens et la fin du génocide, et qui est donc la date par laquelle finalement passe le récit national ici au Cambodge?
Pour ma part, le 17 avril est beaucoup plus important, puisque je fais partie des rescapés du génocide perpétré par les Khmers Rouges. Donc le 17 avril commémore nos morts, puisque la plupart d'entre eux n'ont pas eu de sépulture. Et donc cette date nous permet aussi de ne pas oublier, et en même temps, le fait d'organiser ici même à Phnom Penh tous ces événements à la fois scientifiques et culturels, c'est aussi souligner que nous sommes toujours vivants et que nous sommes résistants. Et que être résistant, je pense toujours à l'étymologie du verbe résister, c'est se tenir debout. Et rester debout, en dépit de tout, nous permet de à la fois d'honorer nos morts et de continuer la vie. Et à titre personnel, le 17 avril, mon père a choisi cette date comme date de naissance de ma mère, qui était orpheline, donc elle ne connaît pas sa date de naissance. Et au moment de l'exil, au moment des demandes de mon père comme réfugié politique, notamment pour la France, il a donné la date du 17 avril pour qu'on n'oublie pas. Voilà. Donc nous, depuis l'enfance, on a toujours porté cette date. Donc on ne sait jamais s'il faut se réjouir pour ma mère pour son anniversaire, si, ou au contraire pleurer parce que c'est la date de nos morts.
Peut-être les deux.
Peut-être les deux. Oui, c'est tout le paradoxe de l'histoire, de la mémoire, de la mémoire personnelle et la mémoire collective.
La Marche du Monde est à Phnom Penh, à la recherche des traces du passé Khmer Rouge, dans une ville amnésique, une ville fantôme, où la parole des rescapés est rare, où les lieux de mémoire sont rares. Mais il existe une exception de taille à cette règle de l'oubli, c'est Tuol Sleng, le musée du génocide ici à Phnom Penh, sur les lieux mêmes de la prison de Tuol Sleng, un centre de détention et de torture, établi par les Khmers Rouges dans le lycée de Tuol Sphay Prey, rouage essentiel, voire principal, de la machine de mort Khmer Rouge, Soko Phai. Là, pour le coup, c'est un lieu ultra visible de la période des Khmer Rouges, Tuol Sleng.
Je dirais que Tuol Sleng est devenu un monument, c'est-à-dire c'est le musée officiel du génocide, et tout le prisme du passé passe par S21. Alors qu'on oublie qu'il y a 189 autres centres d'extermination mis en place par les Khmers rouges durant leur régime. Et malheureusement, ces centres sont très peu connus, très peu visibles par les historiens eux-mêmes. Et peut-être aussi parce que ces centres sont aussi dans la campagne profonde, donc difficilement accessibles. Comme les 20 000 charniers. On sait que il y a plus de 20 000 charniers qui pullulent tout le pays, tous nos territoires, et pourtant il n'y a pas de visibilité. Il y a très peu de gens savent où sont les charniers. Et lorsqu'on se promène dans la campagne, lorsqu'on interroge les villageois, eh bien, les mémoires reviennent et souvent ils vous emmènent, ils vous tiennent par la main, ils vous emmènent montrer où se trouvent ces charniers, ces ossements, ces crânes qui sont en dessous des terres.
Donc de nombreux lieux de mémoire encore à découvrir, à rendre visibles dans toutes les villes, dans toutes les campagnes du Cambodge. Et en ce qui concerne justement Tol Sleng, qui est aujourd'hui un musée, qui est devenu un musée tout de suite après la libération de la ville, 40 ans après, une nouvelle génération de chercheurs revisite son histoire et son importance dans la mécanique du génocide. Tol Sleng, une prison établie par les Khmers Rouges dans le lycée de Tol Sveit Prey, à laquelle Anne-Laure Poré consacre son sujet de thèse.
La prison S21, qui a été transformée en musée du génocide de Tol Sleng à Phnom Penh, c'est une trace évidente de ce qui s'est passé dans l'ensemble du Cambodge entre 1975 et 1979. C'est une trace évidente parce que c'était une prison où ont été détenus, interrogés et exterminés près de 18 000 personnes, des femmes, des enfants, des hommes. Et elle a été découverte dès janvier 1979, donc dès que le pouvoir de Phnom Penh a été chassé par les troupes de libération, par les troupes vietnamiennes. Et donc elle a été découverte très tôt et elle a été transformée assez vite en musée du génocide. Et en fait, ce lieu est devenu le symbole de la terreur Khmer Rouge et surtout un lieu de preuve des crimes commis.
Pour quelle raison ?
L'idée, c'était de vraiment faire de ce lieu un symbole. Et il se trouvait que sur place, ils avaient toutes sortes d'éléments pour montrer ça. C'est-à-dire vraiment, quand on arrivait dans le bâtiment A, qui était un bâtiment où ils ont trouvé des cadavres torturés sur des lits en métal, ils ont en fait transformé ces salles en scènes de crime. Et donc le visiteur rentrait dans le musée et en fait était placé en espèce de témoin oculaire du crime qui s'était déroulé dans les murs de cette prison S21. Et en fait, le musée a gardé ce principe.
Encore aujourd'hui, Anne-Laure Poré, lorsqu'on déambule au sein de Tol Sleng, S21, la machine de mort Khmer Rouge, qu'est-ce qu'on voit ?
Alors, il y a plusieurs bâtiments. Il y a quatre bâtiments principaux qui ont été des bâtiments qui ont servi à la détention des prisonniers, on va dire, communs. Donc, dans le bâtiment A, on a des traces des derniers corps qui ont été interrogés et donc exécutés sur place dans la précipitation de la fuite par les Khmers Rouges. Dans le deuxième bâtiment, il y a une présentation qui est très célèbre, qui est vraiment l'image de Tol Sleng, qui montre les photos qui ont été faites des prisonniers à leur entrée dans la prison. Dans le bâtiment C, troisième bâtiment, on voit encore aujourd'hui les cellules en briques et les cellules en bois qui ont servi à la détention des gens qui étaient considérés comme un peu plus importants par rapport aux prisonniers communs et donc qui étaient soumis à la torture. Et puis dans le dernier bâtiment, qui est un bâtiment qui a ouvert plus tard, on a un témoignage extrêmement important qui est celui du peintre Van Nat, où il expose des tableaux du traitement inhumain des prisonniers pendant cette période.
Anne-Laure Poré, ce qui est très intéressant dans la recherche que vous menez, puisque vous enquêtez sur cette prison, Tol Sleng S21, qui, on l'a dit, est peut-être la trace la plus visible ici à Phnom Penh de cette période Khmer Rouge. Et en même temps, Votre travail pose de nombreuses questions et on est en train de se rendre compte avec vous que même cette prison de Tulsling, finalement, a des parties certainement invisibles qu'il va falloir encore découvrir et révéler.
Le musée, il a été créé dans ce qui a été le noyau de la prison. En réalité, et ça c'est le tribunal chargé de juger les anciens dirigeants Khmer Rouge qui, disons, l'a posé avec des plans, notamment un plan dessiné par l'ancien directeur de cette prison, Dutch, qui montre qu'en fait, les espaces de la prison, le périmètre de cette prison était beaucoup plus grand que celui confiné dans le musée actuel. Donc mon projet, c'est de comprendre comment les espaces ont été utilisés autour du musée actuel. Quelle était la taille réelle de cette prison ? À quoi servaient les quartiers environnants ? On sait qu'au sud du musée actuel, il y avait un pâté de maisons qu'on appelait la prison spéciale et où étaient incarcérés les prisonniers les plus importants qu'on voulait cacher aux autres prisonniers et qu'on voulait garder au secret le temps de leur interrogatoire. Il y a des espaces, par exemple, à l'ouest du musée, où des fosses ont été retrouvées, des charniers exhumés dès 1979, et qui sont l'illustration du fonctionnement de la prison, c'est-à-dire qu'au début de sa mise en route, les prisonniers étaient exécutés dans les environs, autour du musée Tulsling. Et puis il y a toute cette partie dont en fait on n'a jamais parlé, qui est l'administration de la prison, où logeaient les gardes, où logeaient les tortionnaires, les interrogateurs, comment fonctionnait cette administration, par où on entrait, par où on sortait. Alors il y a des choses qu'on sait déjà depuis quelques temps, mais le tribunal a contribué en fait, par le témoignage de Dutch, qui était le directeur de la prison pendant la période du Kampuchea démocratique, a contribué à éclairer en fait la taille réelle de la prison S21. Moi, c'est à ces questions-là que j'essaye de répondre par cette recherche.
Soko Faye, vous qui pensez la ville de Phnom Penh comme un paysage mémoire, vous avez monté un colloque, mais aussi un programme d'exposition avec le vidéaste plasticien Patrick Nardin, professeur comme vous à l'université Paris 8, pour permettre à vos étudiants venus des quatre coins du monde de porter un regard d'artiste sur la ville fantôme de Phnom Penh. Moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez votre démarche.
En 2008, Pierre Bayard et moi-même avons travaillé sur les archives du centre Bopana, dirigé par le cinéaste Ritipan, et c'est là que nous avons découvert ce documentaire extraordinaire des deux réalisateurs d'Allemagne de l'Est, Reinowski et Schumann. Le documentaire s'intitule Death and Rebirth, et nous avons été scotchés par l'ouverture du film, par ce long plan séquence qui montre les rues désertées de Phnom Penh. Il n'y a personne, et la bande sonore est baroque d'une certaine manière, très émotionnelle, et on voit ce vide. Et il y a un arrêt sur image d'un oiseau, comme si la ville est dépeuplée de ses habitants, mais aussi des animaux, des oiseaux.
Death and Rebirth, ça veut dire mort et renaissance.
Oui, Death and Rebirth, qui veut dire mort et renaissance. Et j'ai eu l'idée de faire un remake, mais je n'étais pas très sûre de moi, donc j'ai parlé de cette idée à Patrick en lui demandant « Est-ce que tu penses que c'est faisable de faire un remake ?» Il m'a dit oui. Et donc, c'est là que nous avons décidé d'écrire le programme et d'aller chercher les financements, de mettre en place ces ateliers de la mémoire, ces ateliers laboratoires au cœur de Phnom Penh.
Et puis, quelques années plus tard, vous réalisez collectivement un film qui s'appelle Double Crossing. C'est une vidéo collective montée et réalisée par Patrick Nardin. D'ailleurs, il va s'exprimer à ce sujet. Mais en attendant, vous allez nous présenter le principe de cette vidéo.
Alors, lorsque nous nous sommes réunis dès le premier jour entre les étudiants qui viennent de Paris 8 et les étudiants cambodgiens de l'Université Royale des Beaux-Arts, la première chose que nous avons fait, c'est avant tout de regarder le film. Nous avons regardé le film en entier. Eh bien, nous avons ensuite tenté de repérer les lieux, de repérer la topographie de cette trajectoire à travers les témoignages directs. Donc nous avons fait venir le professeur Yann Vitarine, qui est photographe, qui enseigne à l'URBA, lui-même a repéré certaines avenues, mais il n'était pas toujours sûr de lui, donc on a fait venir des anciens, ceux qui ont cette mémoire de la ville de Phnom Penh, et nous avons donc retracé toute la trajectoire du plan séquence. Et la seule consigne que nous avons donnée, c'est de filmer ces rues dans Phnom Penh.
On écoute Patrick Nardin, votre complice de l'Université de Paris 8. C'était juste avant le vernissage de l'expo, d'ailleurs, au Centre du Visuel Bopana de Phnom Penh.
Et en fait, on est au Cambodge, où le français est plus la langue étrangère la plus parlée, c'est davantage l'anglais. Et donc, pour faire comprendre la pièce, on a pris un titre anglais qui s'appelle Double Crossing, qui est en fait une double traversée de la ville à deux époques radicalement différentes. Voilà.
Alors on va décliner ces deux époques.
Oui, la pièce originale est un film de deux documentaristes allemands, Walter Reinowski et Gerhard Scheumann, qui ont fait un film à l'arrivée des troupes vietnamiennes. Alors, il faut savoir que la réconciliation entre le Cambodge et le Vietnam s'est faite sous l'égide de l'Allemagne de l'Est. Et donc, ces deux documentaristes, très célèbres en tout cas à l'époque, sont venus dans les fourgons de l'armée vietnamienne et ont eu la possibilité réellement de filmer la ville après une période sans images.
Donc on est en quelle année ?
On est en 1979. Le travail de ces deux documentaristes autour d'un film qui s'appelle « Sterben und Auferstehen », qui veut dire, si on le traduit littéralement, « Mort et résurrection », mais le titre est retenu souvent mort et renaissance, mais le sens véritable c'est la résurrection, qui est une chose un petit peu plus forte, et donc opère un travelling à travers la ville de Phnom Penh vidée de ses habitants. Donc ils installent une caméra 16 mm à la fenêtre d'un véhicule et traversent la ville à pleine vitesse sans jamais rencontrer personne. Donc c'est le spectacle hallucinant d'une ville totalement désaffectée. C'est pas une ville détruite si on pense aux villes allemandes de 1944-45, non, c'est une ville parfaitement intacte, mais vide de tous ses habitants.
Patrick Nardin, votre proposition Double Crossing, on en a donc compris le titre. Il s'agit de retraverser la ville de Phnom Penh plusieurs décennies plus tard.
Voilà, et la ville, évidemment, elle n'est plus la même. Donc on a monté une caméra sur un tuk-tuk. On a fait un petit convoi de tuk-tuk, on a essayé de retrouver le point de départ de ce fameux travelling. Et donc on a reconstitué cette trajectoire. Le travelling, c'est une trajectoire, c'est une traversée de l'espace. Et donc on a filmé comme ça ce mouvement dans Phnom Penh sans trop savoir ce qu'on faisait, ni sans trop savoir où on allait. Parce qu'on ne savait absolument pas quoi regarder. Et c'est en regardant les images après, a posteriori, que je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait absolument reconstituer ce parcours. Et donc quand on regarde Double Crossing aujourd'hui, on voit côte à côte deux mouvements qui semblent le même, et on voit effectivement une ville qui littéralement n'a pas changé. Les bâtiments sont les mêmes, le parcours, on reconnaît les portes, on reconnaît les angles de rue de façon très précise, mais ce qui a changé évidemment, c'est que la ville est réaffectée, qu'il y a une circulation absolument délirante, qu'on voit des panneaux, qu'on voit des cyclistes, des mobilettes, des tuk-tuk, des voitures, et une surcharge architecturale et colorée évidemment qui n'existait pas à l'époque.
Ce que j'ai trouvé très intéressant, Patrick Nardin, c'est que Double Crossing est un film qui permet de révéler une architecture oubliée, c'est-à-dire l'architecture qui a précédé le génocide, la nouvelle architecture khmer, et ça apparaît au montage. Est-ce que ça, c'est une des surprises, en fait, du film ?
Oui, c'est une des surprises de voir que la ville a finalement, à ce moment-là, relativement peu changé. Alors l'architecture khmer, la nouvelle architecture khmer, c'est une architecture d'inspiration européenne, on va dire post-Le Corbusier. Van Mulligan est un architecte post-Le Corbusier, mais qui a inventé une architecture adaptée aux tropiques, c'est-à-dire avec une certaine exposition au soleil, des passages permanents entre l'intérieur et l'extérieur, un jeu sur les courants d'air. Donc c'est une architecture à la fois technique et extrêmement inventive sur le plan formel. Et c'est évidemment aussi une architecture en voie de disparition. Et le reste de cette architecture khmer est engoncé dans la nouvelle architecture d'inspiration chinoise, ces grandes tours qui, d'une certaine façon, la marginalisent et l'étouffent singulièrement. Donc il y a une espèce de mémoire de la ville moderne telle qu'elle apparaissait dans les années 60, qui était vraiment un rêve architectural en Asie du Sud-Est, et ce rêve aussi tend à s'effacer aujourd'hui.
Mmh. Lebensreichtum weit Menschen wird ihr Name sein, mỗi đó ông chờ thật trong căn nhà trong đất căn nông thôn.
Les voix de Béatrice Sterling et Vizal Sek, deux des artistes du projet Landscapes Afterwards, les paysages après coup, présentés dans la capitale cambodgienne en avril 2019. Et tout comme ces deux artistes chanteurs, le plasticien Cristobal Boué s'est demandé comment donner à entendre les voix d'une mémoire enfouie sous les décombres du génocide. À la recherche d'un objet rituel cambodgien, il a choisi de réaliser une grande maison des esprits toute blanche, car c'est la couleur du deuil. Et sur la façade, il a percé deux petits trous, ce qui permet de découvrir à l'intérieur des images d'archives de l'évacuation de Phnom Penh le 17 avril 1975.
Quand j'ai installé la maison des esprits dans la ville et j'ai laissé les habitants regarder à l'intérieur, regarder les images, ils sont agis de différentes manières. Quelques-unes, elles sont regardées, après ils sont partis tout de suite. D'autres, ils s'étaient gênés. Mais il y a eu des gens qui m'ont donné un témoignage de son expérience à l'époque. Je me rappelle très bien d'un des témoignages d'une dame qui m'a raconté qu'elle habitait aux alentours de marché central. Elle avait 20 ans à l'époque, que quand les Khmers rouges sont arrivés à la ville, c'était très dur. Les Khmers rouges, ils ont déporté les gens et ils ont fait les gens travailler dans les rizières. Mais qu'elle était sauvée de certaine manière parce que il connaissait le travail de la terre. Il avait son grand-mère ou sa mère qui connaissait le travail dans les rizières. Donc il a appris quand elle était petite, elle pouvait vraiment travailler. Donc j'ai eu ce type de témoignages ou des gens qui m'ont raconté que c'était très dur et qu'ils sont totalement bloqués, qu'ils vraiment elle pouvait pas donner un témoignage.
Ce qui me frappe, Cristobal, c'est que en plus de la Maison des Esprits, avec les archives de Phnom Penh vidées par les Khmers Rouges en 75, vous proposez maintenant un film où l'on voit les habitants de Phnom Penh qui regardent dans votre Maison des Esprits et qui finalement réagissent en prenant la parole. Est-ce que c'est ça la bonne surprise de votre installation, en quelque sorte? Comment vous comprenez ça?
Oui, tout à fait. Et quand les gens ont commencé à parler, j'étais très étonné. Ça m'a beaucoup touché. Avec cette expérience de la mémoire du génocide cambodgien, je me suis rendu compte que la mémoire, c'est un espace, c'est un territoire très dynamique, où il faut découvrir les espaces cachés, peut-être souterrains, de cette mémoire.
Au fond, vous avez le sentiment que cette mémoire de la ville de Phnom Penh, elle existe, mais il faut savoir la révéler, il faut savoir la rendre visible.
Oui, justement, la mémoire de la période des Khmers Rouges, il faut vraiment la révéler, il faut la dépoussiérer. Mais il y a une grande partie qui se trouve dans la rue, avec les gens qui habitent dans la rue, qui habitent dans l'espace public, qui habitent la ville, qui construit la ville. Et c'était ça un peu la bonne surprise de cette expérience avec la Maison des Esprits.
Marche du monde au son des chants traditionnels maori ici à Phnom Penh, un concert proposé par Cambodian Living Arts, Soko Phai, sur laquelle vous avez pris beaucoup, beaucoup de plaisir à danser.
Oui, la danse est très importante pour les Cambodgiens. C'est aussi une autre manière d'habiter notre corps, une autre manière aussi de partager avec la communauté. Et les chants maoris me touchent particulièrement parce que ça me renvoie à toute la nostalgie que j'ai de mon enfance, de toutes ces belles années heureuses avant les Khmers Rouges. Et ces chants, on les entend dans les villages, mais aussi ces chants accompagnent les mariages. Et donc c'est les moments d'engagement, les chants qui me renvoient au temps des promesses. Ça me touche très fortement.
Et c'est une façon avec Cambodian Living Arts de faire renaître cette culture cambodgienne qui a été effacée, parce que c'est aussi ça un génocide, Sokofai.
Patrick et moi, nous sommes particulièrement fiers que Cambodian Living Arts s'associe à nos projets, puisque Cambodian Living Arts a une très belle mission qui est de retrouver les maîtres anciens qui ont survécu au génocide, que ce soit un musicien, un maître danseur, et qui transmettent leur savoir à la nouvelle génération pour précisément garder cette mémoire.
Cambodian Living Arts, une ONG culturelle très importante ici au Cambodge pour la récupération du patrimoine culturel cambodgien. On écoute tout de suite son directeur, Plom Prim. Il s'exprime sur l'effacement des traces de l'identité cambodgienne.
Je dirais qu'aujourd'hui, en 2019, on est au début aussi d'une nouvelle transformation qui n'est pas celle du conflit, de la guerre, d'un génocide, mais d'une accélération quasi chaotique, presque, d'un développement urbain accéléré.
Qu'est-ce qu'elle fait au passé, cette modernité ?
Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai peur. J'ai peur du développement de Phnom Penh. Il y a 6 ans, on a vu le premier gratte-ciel, qui était un gratte-ciel, je pense, d'une trentaine d'étages qui est arrivé. Ça, il y a 6 ans. Et aujourd'hui, il y en a peut-être au moins, à mon avis, une cinquantaine en construction. Donc, je dirais que ça me fait peur parce que son passé, on va l'oublier autour de tous ces immeubles vitrés, mais il y a aussi des vides quartiers qui existaient. Il y avait aussi toute une communauté autour de chaque marché aussi, qui est en train de disparaître au détriment de grands shopping malls qui se construisent. Et aujourd'hui, avec l'accélération du développement et aussi quelque part la perte de certaines communautés qui ne peuvent plus vivre sur Phnom Penh, ces gens-là partent aussi avec leur mémoire et s'installent dans les périphéries de Phnom Penh. Et donc, on essaie d'assainir quelque part le centre de Phnom Penh, cet assainissement, il se fait au détriment de la perte de son histoire et des communautés qui vivaient. Quand il y a une tour qui se construit, c'est une communauté qui est perdue. Et pour moi, c'est une perte d'identité.
Je vous vois acquiescer, Sokofai, et vos yeux brillent. Vous êtes super d'accord, j'ai l'impression, avec le directeur de Cambodian Living Arts.
Oui, je partage complètement ce que dit Plom Prim. Nous sommes quelques-uns, que nous soyons universitaires, que nous soyons des artistes ou qui dirigeons des centres importants sur la mémoire. La mémoire est fondamentale pour nous. Pourquoi pas seulement dans le repli identitaire, dans le repli nostalgique ? C'est tout simplement, on peut, en Occident, on entend souvent les plaintes, il y a trop de devoirs de mémoire. Si on se plaint du devoir de mémoire, c'est qu'il y a eu suffisamment de mémoire, il y a eu suffisamment de travaux, de témoignages par rapport à la période de la Shoah, par exemple. Alors qu'au Cambodge, au contraire, on a vécu pendant 40 ans un oubli institutionnalisé, un oubli forcé. Et donc on ne peut pas construire notre futur si on ne fait pas l'effort d'interroger ce passé, précisément.
Un oubli forcé, au nom de quoi ? Au nom de la réconciliation du peuple cambodgien ?
J'entends par oubli forcé que le gouvernement n'aide pas à créer des espaces de réflexion, des espaces de débat dans la société. Il a fallu quand même attendre 2009 pour que dans les livres d'histoire des lycéens, on parle de S21, qu'on parle des Khmer Rouges. Donc on peut s'interroger, c'est quasiment une, deux générations qui sont passées.
On a ouvert cette émission Sokofai en s'interrogeant sur Phnom Penh, ville fantôme du passé, du futur. J'ai l'impression que la boucle est bouclée. Comment expliquer ça à nos auditeurs ?
D'abord, je dois préciser que le fantôme est un sujet sérieux au Cambodge, puisque la plupart nous croyons aux fantômes. Le fantôme, ça renvoie aussi aux esprits des morts, en particulier aux âmes errantes. Les âmes errantes, ce sont des personnes décédées qui sont mortes de manière violente et qu'on n'a pas pu rendre une sépulture et qui continuent toujours à errer. Pour moi, ce que je ressens, c'est une forme d'inquiétante étrangeté. Qui est le concept de Freud, mais qui révèle en même temps ce travail du fantôme dans notre présent. Ce qui n'a pas été réglé se transmet de génération en génération.
Est-ce que cela signifie, Sokofay, que en tant qu'historienne de l'art, en tant qu'universitaire, que chercheuse, vous assumez aussi une part de votre histoire personnelle et donc vos propres fantômes pour pouvoir justement écrire, pour pouvoir transmettre à ces jeunes artistes avec lesquels vous travaillez aujourd'hui ?
J'ai mis longtemps à accepter que ce cheminement n'est pas seulement en tant qu'enseignante-chercheur ou en tant que critique d'art ou commissaire d'exposition, mais aussi j'ai eu besoin de revenir sur mes propres fantômes, comme vous le dites, et j'ai été très heureuse de rendre hommage à une personne clé de mon histoire personnelle, même si je n'ai pas de souvenirs direct de lui, mais mes parents en ont parlé, mes oncles et mes tantes, de Hang Thun Ha, cette figure emblématique de l'histoire de notre pays, mais aussi de l'histoire culturelle, puisque il a été le premier recteur de l'Université Royale des Beaux-Arts dans les années 60. Et pour moi, finir le colloque en projetant sa photo avec sa famille, où on le voit très heureux, c'est une photo qui date des années qui date de 1974. Et eh bien, c'est une manière indirecte, un clin d'œil à lui pour dire qu'on n'a pas oublié son héritage et que nous sommes fiers, que je suis fière de porter sa mémoire ici même dans ce lieu où il a participé au rayonnement de la culture cambodgienne.
Merci.
Merci Valérie.
Ainsi s'achève Phnom Penh, ville fantôme, un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Richard Rifono, autour du projet Landscapes Afterwards, le paysage après coup, dont je vous invite à découvrir les textes mais aussi les œuvres sur notre page rfi.fr. Un grand merci à Patrick Nardin et à Sokofay et à toutes celles et ceux qui ont participé à ce projet d'exposition et de colloque au Cambodge, organisé par l'Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Vous trouverez plus d'images sur nos pages Facebook et compte Twitter. Réagissez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.